J'ai commencé à partager tantôt au début de la réunion avec le verset d'introduction, comment est-ce que Jésus tient son Église dans sa main, puis il marche au milieu de son Église. Et c'est des versets qu'on va reparler encore aujourd'hui. Mais malgré le fait que Jésus tient l'Église dans sa main ou qu'il nous tient dans sa main, puis il marche au milieu de l'Église, tout ça, c'est des versets qui nous le disent qu'il est là. Ça n'empêche pas que l'Église a subi des persécutions incroyables à travers tous les siècles. Quand on pense déjà tout de suite au départ, quand les premiers apôtres se sont tous fait assassiner, puis par la suite, dans les pères d'Église, c'était la même chose, parce qu'il y a eu des persécutions, puis il y a eu des divisions, puis il y a eu des guerres entre de différentes croyances évangéliques, chrétiennes. Puis ensuite, après ça, c'était l'Empire romain qui avait sa propre religion, la religion universelle de Rome, la religion catholique, qui elle aussi faisait des croisades pour tuer tout ce qui n'était pas dans leur pensée. Des guerres incroyables qui ont été envoyées par notre ennemi commun, notre ennemi qui existe depuis le début de la création, qui frappe sur le monde entier, pas juste sur les chrétiens, mais il frappe aussi sur les chrétiens pour essayer de renverser puis de détruire ce que Jésus est en train de bâtir. Vous savez que tous les chrétiens, c'est Jésus l'a expliqué dans ses enseignements, ont à subir, comme qui dit la maison qui est bâtie sur le roc, les vents vont venir, les torrents vont venir, la pluie va venir. Puis là, si elle est bâtie sur le roc, elle va rester debout. Mais si elle est bâtie sur le sable, le vent va venir pareil, puis la pluie, puis le torrent, puis elle va s'écrouler. Fait qu'à travers tous les siècles, malgré que le Seigneur tient ses brebis dans ses mains, il y a eu des gens qui ont resté debout, puis il y a eu des gens qui sont tombés. L'Église est appelée à faire face aux tempêtes de la vie. C'est pas juste à Beauharnois qu'on vit des combats. Chaque église, chaque chrétien vit ses propres combats. Le combat de rester dans la foi puis de continuer à persévérer dans toutes ces choses-là qu'on vit, parce que des choses naturelles de la vie, des choses normales, de manger, boire, travailler, avoir de l'argent, payer ses affaires, ou quand c'est de la maladie, puis des souffrances, puis des combats différents, puis quand tu te ramasses à l'hôpital, puis t'as ta santé défaillante, puis il y en a que c'est des combats aussi en physique, par de la persécution, des oppressions, les gens qui attaquent les autres parce qu'ils n'aiment pas les chrétiens. Ça existe partout dans le monde, présentement. Nous, ici, au Québec, sur ce côté-là, on vit pas grand-chose, mais aller dans des places où ce que c'est majoritairement musulman ou de d'autres religions, les chrétiens sont rejetés. Les chrétiens sont persécutés. Les chrétiens, il y a des fois, même, ils se font démolir leurs maisons, ils se font démolir les églises, ils se font attaquer sur toutes les bords. Jésus a dit à ses disciples, « Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Malgré que Jésus marche dans son Église puis qu'il tient l'Église dans sa main, ça l'empêche pas les combats, les luttes, les souffrances, le prix à payer de rester chrétien, les efforts à faire pour continuer à avancer dans le Seigneur. Mais il faut quand même s'encourager parce qu'il y en a qui ont passé à travers de toutes ces souffrances-là et ils ont gardé la foi jusqu'à la fin. Pourquoi? Parce que Jésus les tenait dans sa main. Des fois, on va dire, « Ouais, mais ce qui était Jésus quand ces combats-là sont arrivés? » Jésus n'empêche pas les combats. Jésus te donne une porte de sortie. Puis quand tu prends cette porte de sortie-là, des fois, ça coûte quelque chose. C'est souffrant, tu peux y aller, mais tu peux t'en sortir, mais avec des combats. Il y a des gens que le combat, on va en parler un peu tantôt de différents combats, mais ce qu'il faut retenir, c'est que Jésus nous tient dans ses mains. L'Église existe parce que le Seigneur, il est en train de la bâtir. L'Église est dans la main du Seigneur. Le Seigneur, quand il a dit dans Matthieu 16, 18, « Et moi, je te dis, tu es pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon Église. » Puis il dit que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Il parlait d'une victoire après la mort. Que le séjour des morts n'aura pas le dessus, mais il n'a pas dit que l'Église n'aura pas de combat. Il a juste dit que le séjour des morts, ça représente la mort, ça représente le diable, ça représente l'ennemi de Dieu, n'aura pas le dessus. Mais ça l'empêche pas que les choses terrestres, les choses difficiles terrestres peuvent être vécues par l'Église. Mais ça n'enlève pas le fait que c'est quand même Dieu qui a prévu de bâtir son Église. C'est Dieu qui a son Église dans ses mains. Puis c'était prophétisé dans l'Ancien Testament que l'Église sera créée par Dieu, elle sera établie par Dieu, puis qu'elle était pour subsister éternellement. Dans Daniel 2, 44, ça nous dit, « Dans le temps de ses rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit, qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là, et lui-même subsistera éternellement. » On voit dans cette prophétie-là comment ce que Dieu avait prévu d'avance qu'il était pour bâtir un nouveau royaume. C'était prédit que pendant les rois qui étaient pour régner sur cette terre, puis on le sait que ces rois-là, ils ont institué des guerres puis des attaques contre d'autres pays pour conquérir. C'était des rois conquérants. Que ce soit ça a commencé avec Nebuchadnezzar, le roi de Babylone. Après ça, c'était les Mèdes et les Perses. Après ça, c'était la Grèce. Puis après ça, l'Empire romain, tous ces royaumes-là qui ont régné sur la terre, c'était des conquérants, puis de la guerre, puis de la méchanceté. Mais Dieu a dit que pendant que ces rois-là seraient en train d'exercer leurs autorités, puis leur contrôle, puis leur méchanceté, que Dieu, lui, susciterait un royaume, puis ce royaume-là vivrait éternellement. Puis que ce royaume-là ne sera pas sous la domination d'un autre peuple. Que ce royaume-là, pour ceux qui font partie de ce royaume-là, ils vont être sous l'autorité directe de Dieu, puis ils accepteront pas de passer sous la royauté d'un autre peuple. Que leur priorité, c'est d'obéir à Dieu, puis rester ferme dans la foi, puis persévérer jusqu'à la fin. C'est à ça l'idée. Fait que quand Jésus est venu, Jésus, il a commencé à bâtir son Église, c'est ce qu'il disait, il dit, je bâtirai mon Église. Il a commencé à la bâtir, il a fait un recrutement. Ils ont vécu toutes sortes de combats, même dans ce temps-là, mais Jésus, dans ses enseignements, il s'est révélé comme c'est lui qui est là au milieu de son Église pour l'encourager dans son combat. Quand il a dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde », ça voulait dire la même chose que dit dans Apocalypse 1:20. Il dit « Le mystère des sept étoiles que tu as vues dans ma main droite et des sept chandeliers d'or ». Il dit « Les sept étoiles sont les anges des sept églises, puis les sept chandeliers sont les sept églises ». Puis Jésus, dans cette révélation-là, venait de montrer que les sept églises y tenaient dans sa main. C'est pour dire que Jésus tient dans sa main les églises, puis il y a d'autres versets comme on est dans la main de Dieu. Là, c'est aussi écrit que les brebis qui la comportent sont individuellement tenues dans la main de Dieu. Ça, tu vois ça dans Jean chapitre 10, le verset 27. Il dit « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Personne ne les ravira de ma main. » Il dit « Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, puis personne ne peut les ravir de la main de mon Père. » On voit là-dedans, c'est des promesses incroyables, que Jésus, non seulement que lui est en train de bâtir l'Église, il marche au milieu de son Église, puis il dit que l'Église est dans sa main, puis personne ne peut les enlever de là. Pourquoi Jésus nous a dit ça? Pour qu'on ait de la force, du courage, d'accepter, pour passer à travers, d'accepter les situations qu'on vit, puis de passer à travers par la foi dans les pires combats qu'on aura à livrer. Parce que Jésus est avec nous, puis nous tient par la main. On a ces promesses-là, mais on sait aussi dans les enseignements qu'on a un ennemi qui lâchera pas d'attaquer l'Église. Combien de fois l'ennemi a essayé de détruire l'œuvre de Dieu? Ça a commencé au début de la création. Tout de suite, Dieu crée les choses. Dieu dit, voilà, tout est très bon. Puis le diable, tout de suite, il rentre dans Adam et Ève pour les faire tomber dans le péché, puis pour casser ce que Dieu est en train de construire. Dieu trouva ça très bon. Puis le diable, tout de suite, il s'est arrangé pour qu'il y en ait un qui tue l'autre. Puis toute l'histoire a été une histoire de corruption, de perversion, de destruction. Puis là, le monde, les humains, se font voler les promesses de Dieu. Parce que Dieu avait des plans pour les humains. Puis là, les humains se font voler ce que Dieu avait préparé pour eux autres. On perd les promesses de Dieu. On perd même des fois la vie, parce que les gens comme Caïn tua Abel, il a perdu la vie. Tout ça, c'est le résultat de l'attaque de l'ennemi juré de l'Église. On le sait que Jésus est avec nous. On le sait qu'il nous tient dans sa main. Mais il y a des choses qui font que ça frappe l'Église, puis des fois, il y en a qui lâchent la main du Seigneur. Dans Jean 10:10, ça nous parle, Jésus, c'est pas pour rien qu'il nous a dit ça. Il dit, le voleur ne vient que pour voler, pour dérober, égorger et détruire. Le travail du diable, puis il accomplit bien son travail, même s'il fait le mal. Il accomplit bien son travail, puis c'est qu'est-ce qui est dit là, c'est vrai. C'est Jésus qui dit, sa job au diable, c'est de voler le monde, c'est de les égorger, puis de les détruire. Puis c'est ce qui se passe depuis le début de la création, puis c'est ce qui se passe aussi dans l'Église, qu'est-ce qui s'est produit avec les chrétiens qu'on voit depuis 2000 ans dans l'histoire de la vie de l'Église. Mais Jésus nous encourage encore par un autre verset pour nous dire dans tout cela, il dit, « Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Fait qu'il y a des brebis sur la terre qui vont vivre une certaine abondance. Tout à l'heure, on disait, « Merci Seigneur, parce que le Seigneur pourvoit, on a de l'eau, on a de la nourriture, on a tout. » On vit cette abondance-là, mais pas tous les chrétiens sur la terre. Il y en a qui sont sous les attaques du diable, privés dans des pays de sécheresse, puis privés de nourriture puis d'eau, à cause que aussi les autres qui sont autour, ils donnent pas ce qu'il faudrait, parce que la planète, si les gens le voudraient, pourrait produire. Mais là, ça produit pas assez, puis ça veut pas nécessairement donner à tout le monde. Fait que là, le diable se sert de la méchanceté humaine pour encore faire souffrir. Puis il y a des chrétiens qui souffrent à quelque part dans cela, dans ces pays-là. Mais ça fait partie du combat que Jésus a dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Jésus veut encourager ses disciples à pas regarder aux choses trop, à pas trop s'arrêter aux choses terrestres, puis comme dire, je lâche de suivre le Seigneur parce que ça va trop mal. C'est ça qui est le point. Jésus veut qu'on persévère dans la foi jusqu'au bout, peu importe ce qui arrive. Ce qu'il faut s'encourager, c'est d'autres versets qui nous dit que le Seigneur est venu, lui, pour détruire ce que le diable fait. Jésus construit, le diable, il détruit, puis Jésus, quand il est venu, il y a 2000 ans, est venu pour détruire ce que le diable fait. Fait qu'il y a une guerre, là. Il y a une guerre spirituelle qui est en jeu entre le diable puis Jésus qui est venu. Puis on sait qui est le plus fort. C'est pour ça qu'il faut s'encourager avec les versets de la parole qui nous parlent que Jésus est avec nous, Jésus nous accompagne, Jésus nous donne la victoire. On a chanté tantôt des chants qui nous disaient « Nous avons la victoire dans le nom de Jésus ». Même si Satan se déchaîne, on a quand même la victoire à cause de Jésus. Il faut s'accrocher à ces choses-là. Dans 1 Jean, chapitre 3, verset 8, ça dit « Celui qui pêche est du diable, et le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. » Fait que Jésus a des projets qui détruisent ce que le diable a fait, puis ça contrecarre son plan. Parce que son plan au diable, c'était d'emmener tout le monde avec lui dans la perdition éternelle. D'emmener tout le monde, comme ce qu'on dit, dans l'enfer. Mais c'est pas le mot enfer, c'est l'étang ardent de feu et de soufre. C'est le jugement éternel, la seconde mort. C'est là que le diable s'en va. Puis son plan, c'est d'emmener tout le monde là. Mais Jésus, quand il est venu pour détruire ce que le diable est en train de faire. Donc, qu'est-ce qu'il fait, Jésus? Il a établi un plan pour pouvoir accorder la vie éternelle à du monde qui était déjà perdu. Son plan, Jésus, c'est de détruire, mettre des barrières aussi, dans le sens, une fois que la personne accepte le Seigneur, mais c'est sûr tu vas en avoir encore des combats, des luttes, des difficultés. Mais si tu suis le Seigneur, c'est pour le résultat final de dire que tu vas être sauvé. On ne suit pas le Seigneur par rapport, c'est ce que je veux en venir, on ne suit pas le Seigneur par rapport parce qu'on est béni. On suit le Seigneur parce qu'il nous sauve. Quand il contrecarre l'effet du diable, c'est pour dire, le diable t'a amené à être perdu, puis Jésus, lui, veut te sauver. Il veut t'amener à avoir la vie éternelle. Ça, c'est le vrai but. Fait que si tu vis dans un pays d'abondance ou un pays de pauvreté, faut que tu t'encourages que dis Jésus est avec moi, puis je vais rester dans la foi parce que je sais que je suis sauvé. C'est la vraie raison pourquoi qu'on suit Jésus. Quand que le diable est détruit, là, quand Jésus détruit les œuvres du diable, le mot détruit que là, ça veut dire relâcher les personnes attachées ou les personnes liées. Délier des liens, relâcher, rendre libre, congédier ou rompre, dissoudre, annuler, renverser, priver d'autorité, déclarer illicite comme si c'est illégal puis c'est plus bon. Ce que le diable fait, Jésus, ce qu'il a fait, a combattu ce que le diable avait comme droit légal, puis Jésus, il dit que c'est maintenant illégal, tous ces droits que lui pensait légal. Ah, l'autre, il fait un péché, c'est légal pour moi, je rentre dans sa vie. Jésus est venu pour rendre illégales les légalités que le diable se donnait. Il renversait les choses que le diable, puis il rend libre les captifs. Ça veut dire que tu es emprisonné par le diable à cause de tes péchés, à cause de mauvaise vie que tu as vécue ou des choses que tu t'es enlissé parce que tu as tombé dans des affaires, puis là, t'es poigné. Jésus peut te rendre libre. Il peut te détacher de ce qui te lie, casser, il démolit, il détruit ce que le diable a fait sur ta vie. Si tu crois, c'est là pour tout le monde, comme pour ceux qui sont dans l'abondance ou pour ceux qui sont dans la pauvreté, l'effet spirituel que Jésus fait dans la vie, c'est qu'il sauve, il change les gens de camp, puis il les considère sauvés. Sauf dans des mains du diable, puis il est considéré sauvé au point de vue de la vie éternelle. Puis malgré les avertissements bibliques, là, à plusieurs reprises, l'Église a été remplie de membres, parce que l'Église a prospéré, là, dans le temps de Jésus, il y a 5 000 personnes qui suivaient Jésus puis écoutaient ses enseignements. Puis ils ont été nourris par la multiplication des pains. Il y avait des milliers de personnes qui suivaient Jésus. L'Église était remplie de membres, puis des fois, soudainement, sous une attaque qui est survenue, tous les disciples ont été abandonnés. Ils ont abandonné, puis ont été dispersés. C'est pas arrivé rien qu'une fois. C'est arrivé plusieurs fois que que ceux qui suivaient Jésus, il y en avait des foules, puis là, il arrivait de quoi? Slaw! Puis là, tout le monde disparaissait. Des combats de l'ennemi contre les disciples. Puis là, je parle déjà, même quand Jésus était vivant sur la terre. Quand Jésus était vivant sur la terre avec ses disciples, l'ennemi a essayé d'éliminer les chrétiens par des fausses compréhensions de la doctrine du Seigneur. Il y avait une foule qui suivait Jésus. Jésus commence à enseigner des affaires, puis c'était des enseignements bibliques, des enseignements de Dieu, là. Puis ça dit dans Jean 6, 60, plusieurs de ses disciples, après avoir entendu dire, cette parole est dure, qui peut l'écouter? Puis quelques versets plus loin, puis ça dit, dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent, puis ils n'allaient plus avec lui. Juste parce qu'ils n'ont pas compris des points de doctrine. Ils ont abandonné. Puis ça dit que c'était des disciples. Puis là, Jésus a dit à ses apôtres, puis vous voulez pas aussi vous en aller? Puis là, Simon-Pierre a dit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Pierre connaissait la vraie raison pourquoi qu'on suit Jésus. Pourquoi qu'on suit Jésus? Parce que Jésus nous donne la vie éternelle. C'est la première raison, puis la seule raison valable de suivre Jésus. Si tu suis Jésus parce que tu penses de devenir riche, t'es dans l'erreur. Si tu suis Jésus parce que tu penses que tu seras jamais malade, t'es dans l'erreur. Si tu suis Jésus parce que tu penses que tout va aller bien dans ta vie, t'es dans l'erreur. Tu vas en avoir des attaques, tu vas en avoir des combats, tu vas en avoir des tribulations, tu vas avoir des choses à vivre. Tout le monde en a, mais la vraie raison de rester à côté de Jésus, même si tu comprends pas la doctrine à 100%, suis Jésus pour avoir la vie éternelle. C'est la vraie raison pourquoi qu'on suit. Même si demain matin, il y aura une grosse persécution qui viendra contre l'Église, puis que là, le monde rentre puis nous pointe des guns pour nous. Continuons à suivre Jésus pour avoir la vie éternelle. Peu importe ce qui arrivera. On est convaincu et qu'on marche par la foi d'aller jusqu'au bout comme ça, on est sûr qu'on va rentrer. Si on lâche la main du Seigneur parce que l'autre il nous menace, ou parce que j'ai faim, ou parce que je comprends pas un verset, mais là, écoute bien. C'est pas que Jésus nous tenait pas dans sa main, c'est que c'est nous autres qui lâchons. Parce qu'il nous a dit à plusieurs reprises qu'il est là avec nous, puis il veut qu'on reste avec lui. Mais il y en a qui se trouvent des défaites. Là, ça dit qu'une grosse batch de disciples qui étaient là, parce que dans cette période-là, il y avait les 70 disciples qui évangélisaient, plus les foules qui suivaient, puis ils ont tout lâché, il restait un que les 12, puis il a dit aux 12, puis vous autres, vous voulez pas vous en aller? Nous autres, à qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Il avait compris que c'est le chemin à suivre, même si je comprends pas tout ce qui est dit. Un autre moment que le Seigneur s'est retrouvé tout seul, parce que par la suite, il y avait encore des foules qui suivaient. Les disciples l'ont quitté par la peur de s'afficher avec Jésus. Dans Marc 14, 49, la foule s'en venait pour saisir Jésus dans le jardin. Puis là, Jésus leur a expliqué, « J'étais tous les jours parmi vous enseignant dans le temple, puis vous m'avez pas saisi. » Mais c'est afin que les Écritures soient accomplies. Puis là, ça dit, alors, tous l'abandonnèrent et prirent la fuite. Imaginez le Seigneur qui avait une foule qui le suivait. Ils sont tous partis, même les apôtres. Seigneur, qu'est-ce qu'il a été voir pour lui? Hey, qu'est-ce qu'il va revenir? Okay. Il a laissé le monde partir. Il a passé à travers son épreuve tout seul. Il y a un autre moment aussi qu'il s'est retrouvé tout seul, puis les... pas lui, mais les apôtres sont retrouvés tout seuls. Ça, tu vois ça d'un peu plus loin dans l'histoire de l'Église. L'Église de Jérusalem t'a rendu à plus de 5000 personnes. Puis là, il y a eu une persécution, puis elle s'est vidée. Dans Actes 8:1, Saul y avait approuvé le meurtre d'Étienne. Puis il y a eu en ce jour-là une grande persécution contre l'Église de Jérusalem et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée puis de la Samarie. Tout le monde est disparu sous la persécution. Il y a juste les apôtres qui ont resté fidèles au poste, à rester là à l'Église où ce qui était, où ce qui se réunissait. Il était plus que 5000, ils sont retrouvés 12. Est-ce que ça peut arriver que des gens quittent les églises? On vient de le voir que même le Seigneur les a pas empêchés. Même s'il dit qu'il tient dans sa main, ça l'empêche pas qu'il y en a qui peuvent lâcher la main du Seigneur. Ça y a-tu fait de la peine? C'est sûr que ça y fait de la peine. Quand s'il y a du monde qui abandonne, c'est sûr que ça y fait de la peine. C'est comme le Père... avec l'histoire de l'enfant prodigue. L'enfant, il voulait avoir ses biens, il voulait s'en aller. Quand le père, il n'a pas empêché de s'en aller, il a donné tout son stock, puis bye, il est parti. Mais c'est sûr que ça devait y faire de quoi au père de vous savoir que son fils est parti dépenser ses biens dans la folie du monde. Puis il était content quand il est revenu, puis il l'a accueilli, mais il l'a laissé partir. C'est ça qu'il faut comprendre. On va en voir plein de monde partir. Ça fait grandement de la peine au Seigneur. Malgré que le Seigneur dit qu'il est avec nous et qu'il tient l'Église dans sa main, les gens abandonnent. Ils s'en vont. La première Église, c'était la même affaire. Plus que 5000 personnes qui étaient là dans cette Église-là, puis oups, sont toutes disparues parce qu'il y a une persécution. Il y a un verset qui dit « Qu'est-ce qui va me séparer de l'amour de Christ? Serait-ce l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, le péril, l'épée? » C'est quoi là qui va faire quand je vais lâcher? Lui, Paul, il répond, il dit « Nous, on le sait qu'on a l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les hauteurs, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus. » Paul a répondu ça. Est-ce qu'on est capable de répondre la même affaire? Parce qu'il faut. Il faut qu'on arrive à cette foi-là, qu'on est prêt à suivre Jésus, peu importe ce qui arrive. Qu'est-ce qui va me séparer? Les plaisirs de la vie, ma paresse, Ma faiblesse spirituelle, parce que je prends pas de temps pour me nourrir, je vais pas à l'église, ou si je vais, j'écoute pas. C'est pas intéressant. Il y a des choses là qui sont là, que Dieu a mis là. Profitez-en pour être fortifié dans le Seigneur, parce qu'on ne sait pas comment que la vie va tourner. Prends pas grand-chose pour qu'un tyran rentre dans le pays puis commence à envahir puis à vouloir prendre toutes nos affaires puis à vouloir disloquer les églises puis tout le monde va être éparpillé, chacun sur son bord. Qu'est-ce qui va rester? C'est votre communion avec Jésus. C'est ça qui reste. Puis si vous n'avez une, vous allez continuer à rester avec en vous accrochant. Sinon, si c'est pas là, vous allez lâcher, puis vous allez dériver, puis c'est sûr que vous allez vous perdre. Oui. On a juste une voie à suivre, c'est celle du Seigneur. Ça, j'ai parlé des grosses attaques contre l'Église que le diable a faites, puis que les membres ont lâché, mais il y a aussi des attaques individuelles. dans le cas de Pierre, là, il dit, Satan t'a réclamé pour te cribler comme le fromage. Jésus prie pour les gens. Pierre a passé à travers, s'est repenti. Mais c'est pas de même pour tout le monde. Pourtant, Jésus prie pour chacune de ses brebis. Mais d'un autre passage, dans 1 Timothée 5, le verset 14, des attaques individuelles, il parlait aux veuves dans ce passage-là. Je veux donc que les jeunes se marient, des jeunes veuves, qu'elles aient des enfants, qu'elles dirigent leur maison, qu'elles ne donnent à l'adversaire, au diable, aucune occasion de médire, car déjà quelques-unes se sont détournées pour suivre Satan. Il y a eu des attaques contre les églises, mais il y a eu des attaques individuelles aussi que des gens se sont détournés pour suivre Satan. Malgré les attaques incessantes, parce que le diable n'a pas lâché, lui, il attaque les humains depuis le début de la création, il attaque pas juste les chrétiens, mais on le sait que dans l'Apocalypse, c'est écrit qu'il s'en va pour attaquer le reste de la postérité de ceux qui suivent l'enfant mâle qui est Jésus. C'est écrit dans une vision dans l'Apocalypse. Il s'en va pour faire la guerre au reste de la postérité, puis ça, c'était les chrétiens, c'est l'Église du Seigneur. Malgré que le diable fait des attaques incessantes, le diable ne peut arrêter la croissance de l'Église. Oui, il a attaqué, il y a des milliers de personnes qui ont lâché, ça se remplit, puis il y en a d'autres qui repartent. Mais à travers les temps, l'Église a grandi. Son Église avance. Aujourd'hui, il y a des centaines de millions de chrétiens, de gens qui marchent. Je te dis, je ne sais pas, comme j'ai déjà dit, je ne sais pas, ils sont tous nés de nouveau, on l'espère, puis qu'ils sont tous ancrés dans la foi qui sauve, là, en persévérant, on l'espère. Mais il y a quand même des centaines de millions de personnes qui suivent le Seigneur. Le Seigneur marche avec son Église, puis il est dans son Église, puis l'Église continue de s'accroître. Dans Colossiens 1:6, ça nous le dit, on l'a vu ce passage-là dernièrement, ça dit en parlant de Jésus qu'il est au milieu de vous et dans le monde entier, puis il porte des fruits, puis il va grandissant. Le Seigneur est en arrière de sa parole est annoncée, il est dans le monde, puis ça s'en va grandissant. Du monde apprennent les choses de Dieu, puis ils retransmettent ça, puis il y en a d'autres qui s'ajoutent. Puis l'Église a continué à grandir malgré les attaques incessantes du diable. À travers les siècles, l'Église a subi des persécutions, des attaques répétées par le diable à travers les hommes. Mais l'Église du Seigneur continue à rester debout en ayant toujours des représentants fidèles, protégeant puis défendant les saintes Écritures au prix de leur vie. À travers les siècles, il y a du monde qui ont donné leur vie pour défendre la vérité, pour défendre la parole. Puis il y a eu du monde tué, là, même de 300-400 ans, dans le temps qu'on commençait à imprimer des Bibles. Là. Il y a du monde qui ont été tués parce qu'ils voulaient détruire les moules qui faisaient la production de la Bible King James. Après ça, c'est d'autres traductions qui ont commencé à être mises en place parce qu'il y a du monde fidèle au prix de leur vie qui ont travaillé fort à protéger les écrits, à avoir les textes encore originaux, puis traduire ça dans la langue qu'on l'a en français, en anglais. On les a des centaines de langues de traduits présentement, puis il en reste encore à faire. Puis les gens travaillent, puis le diable fait encore tout pour essayer d'empêcher la parole. Il va y avoir un summum, là, le summum, ça va être l'antéchrist qui va prendre le contrôle dans pas long, puis que lui va s'opposer à tout ce qu'on appelle Dieu, puis à tout ce qu'on adore. Faut pas penser que ça va être facile de suivre le Seigneur quand l'antéchrist va être là. Ça sera même pas facile de vivre, parce qu'il va avoir le contrôle mondial des finances, puis là, on va avoir même de la misère à s'acheter de quoi manger. Bientôt, il y a une bête qui va s'élever. C'est un royaume mis sur pied par la puissance de Satan. Faut pas penser que c'est Dieu qui met ce royaume-là, là. Ça, ça suit les annonces des prophéties de la fin des temps. C'est les temps des nations présentement. Puis dans ces prophéties-là, il va y avoir une persécution massive contre les enfants de Dieu par l'ennemi de Dieu, le diable. Dans Apocalypse 13, là, ça parle d'une bête qui s'élève, une bête à sept têtes et dix cornes, puis il parle dans la chapitre 13, là, du contrôle mondial, mais au verset, ça dit même dans ces textes-là, au début de cette bête-là, que c'est par la puissance de Satan qu'elle est mise en place. Puis ça dit au verset 7 qu'il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Puis il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Ce système-là va contrôler la planète. Puis il va faire la guerre aux saints, qui est nous. Puis si tu lis là dans le chapitre 13, ça dit, c'est ici qu'il y a la persévérance des saints. C'est à nous autres là qu'il va être là dans la grosse épreuve. Mais il n'y a pas un que nous. Il va s'opposer contre toutes les religions. Parce que lui va vouloir être adoré comme étant Dieu. Au retour du Seigneur, malgré l'acharnement du diable, il y aura encore une multitude de brebis fidèles, encore en vie, en vivantes, qui seront enlevées. Malgré les persécutions, malgré les combats, l'Église est encore victorieuse. Il va y avoir encore une multitude de gens qui vont être encore debout en train de prier Dieu, puis de servir Dieu, puis de marcher avec Dieu, puis qui vont faire partie de l'enlèvement pour être secourus par le Seigneur. On voit ça dans Luc chapitre 17, le verset 30. Il en sera de même le jour où ce que le Fils de l'homme paraîtra, quand Jésus va paraître, il vient, là, il paraît, tout le monde va le voir, là. En ce jour-là, que celui qui est sur le toit puis qui aura des effets dans sa maison ne descende pas pour les prendre, que celui qui est dans les champs retourne pas non plus en arrière. Quand tu vas voir Jésus sur un nuage, là, cherche pas à t'en aller ailleurs que dire, Seigneur, prends-moi. Il dit, souviens-toi de la femme de Lot, celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra la retrouvera. Je vous le dis, en cette nuit-là, de deux personnes qui seront dans un même lit, un va être pris puis l'autre va être laissé. De deux femmes qui moudront à une meule, l'une va être prise puis l'autre laissée. De deux hommes qui seront dans un champ, l'un va être pris, l'autre laissé. Là, les disciples lui disent, où sera-ce, Seigneur? Parce que là, ils veulent savoir à quelle place ça va se produire. Puis Jésus leur a dit, où sera le corps? Là, s'assembleront les aigles. Là où sera le chrétien, Dieu va aller le chercher. Peu importe où ce qu'ils sont sur la planète, que tu sois en prison, que tu sois dans une grotte, que tu sois dans un trou que tu t'es creusé dans la terre, peu importe où ce que tu es, le Seigneur va aller te chercher. Il n'oublie pas ses brebis, celles qui lui appartiennent, il va aller chercher. Amen. C'est ça qui va être la victoire de l'Église. D'avoir resté debout, puis qu'il y ait encore des gens qui glorifient Dieu jusqu'à la fin. Peu importe ce qui arrive, peu importe les combats, peu importe les souffrances, peu importe que le monde lâche, qu'ils s'en vont. Parce que ça arrive depuis le temps de Jésus que le monde lâche, puis que le monde souffre. Ceux qui vont persévérer, Jésus les connaît. Puis il dit même il va trier ça là, précisément. Celui qui le sert, il le ramasse. L'autre qui ne sert pas, il va rester là. L'Église restera debout car le Seigneur la conduit, son Église. Il la conduit aux sources de la vie. Dans Apocalypse 7, 17, « Car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources de la vie. » Dieu est en train de nous paître. Paître, c'est nourrir. Il est en train de nous nourrir et nous conduire. Est-ce qu'il y en a qui entendent la voix de Dieu présentement? Dieu est en train de nous paître et de nous conduire aux sources de la vie. D'ici à ce qu'on soit rendu à la source, là, qui est dans la vie éternelle, continuons à se laisser nourrir, puis à rester, à garder le cap, à suivre le Seigneur, peu importe ce qui arrive. Nous avons des promesses auxquelles il faut s'accrocher, puis à nous permettre de persévérer. Je finis avec un dernier verset, Apocalypse 3:10. Parce que t'as gardé la parole de la persévérance en moi. Qui a eu ça, cette parole-là, ici, aujourd'hui, qui veut une parole qui se dit, je veux persévérer en Jésus. Qui a ça, cette parole-là? Si tu as cette parole-là en toi, là, ça dit, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Si tu as la parole de persévérer en Jésus, Jésus va te garder quand que ça va arriver. Tu vas être encore debout quand Jésus va venir te chercher. Amen. Le Seigneur veut des disciples qui sont prêts à aller jusqu'au bout pour suivre Jésus. Puis des églises là que tout va bien, ce n'est que la prospérité, c'est pas... Faut se poser des questions. C'est pas normal parce que même les églises depuis le début, c'est du monde qui rentre, du monde qui sort, puis ça finit plus par toutes sortes de raisons. Puis ça a été de même à travers les siècles des persécutions, puis il y en a qui ont lâché, puis il y en a qui se sont ajoutés, mais il y en a qui ont persévéré. Ça, c'est ceux qui sont conduits aux sources de la vie. On va prier. Seigneur, je te remercie pour ta parole. Je te remercie pour les choses que tu nous révèles. Grave ces paroles dans notre cœur, qu'on soit des disciples fidèles, qu'on reste à notre poste, qu'on persévère, parce que c'est vraiment notre intention, notre désir, notre cœur, notre pensée de vouloir persévérer jusqu'à la fin en toi. Garde-nous, puis merci de tes promesses qui nous dit que tu vas nous garder dans la grande tentation, dans la grande épreuve qui va venir sur le monde entier. Donne-nous de rester fidèles. Tu marches au milieu de nous, mais tu es plus que ça. Tu nous donnes la force et tu nous nourris pour qu'on puisse continuer à rester ferme. Merci pour tout ce que tu vas faire encore dans la suite. On s'en remet à toi. Je te prie dans le nom de ton fils Yeshua. Amen.